Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi, c'est Mediapolis. Peut-être même qu'on va pas parler des gilets jaunes. C'est l'émission sur les rapports entre médias et politique avec une grosse actualité française et internationale. Elle est réalisée par Cyril Pascal et préparée par Paul Lassène. Avec nous aujourd'hui, Alain Frachon, éditorialiste au journal Le Monde, et François Godemont, conseiller de l'Institut Montaigne spécialiste de la Chine, qui vient de publier « La Chine à nos portes » avec Abigaël Vasselier chez Odile Jacob. Et pour commencer, rigoler un peu, un cantelou.
Direction l'Algérie, le chef de l'armée a demandé à ce qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte. On est en ligne avec Bouteflika. Bonjour,
Service
monsieur le président.
Bouteflika.
Bonjour, monsieur le président.
La Perse. Le Perse.
Le Perse.
Julien Le Perse.
Monsieur le président, non, c'est pas Julien Le Perse.
Oh, non, mais c'est
un rapin.
Ah, mais madame Julie, non, mais franchement, vous faites exprès. Je vous ai déjà dit 1000 fois de ne pas déranger monsieur Bouteflika pendant qu'il se biodégrade. Oh, oui, c'est éprouvant pour lui.
Mais enfin, je voulais savoir, c'est vrai que l'armée veut qu'il soit déclaré inapte? C'est vrai cette histoire?
Inapte, mais vous rendez compte les mots qu'il lui attribue? Si c'est pas scandaleux, un homme aussi vigoureux que lui. Je le vois au quotidien, il va très bien. Il est même pas encore mort ce matin.
Non, mais il prend encore des décisions. On a appris hier qu'il a même mis un terme aux fonctions de sa directrice de communication. Il l'a mise à la retraite, carrément.
Oh oui, à la retraite, la pauvre femme.
Ben oui.
Oh ben oui, sa directrice de communication. Elle ne pouvait pas suivre le rythme. Monsieur Bouteflika, c'est Speedy Gonzales à côté d'elle. Oh ben l'autre jour, elle est venue le voir. On les a mis face à face l'un de l'autre, comme ça. Oh ben monsieur Bouteflika, vous le regardez, il n'y a pas photo. Il bave 10 fois plus vite qu'elle.
Oh
ben on dirait qu'il est sous cocaïne. C'est un nerveux, vous savez. Il a son côté nerveux à côté d'elle. Du coup, ben, il a mis à la retraite.
Oh, la pauvre femme. Elle avait quel âge, au fait?
Ah ben, elle avait quand même, elle avait à peine 193 ans. Ah, mais vous savez, dans les cercles du pouvoir algérien, c'est jeune, hein. Elle était directrice de la communication depuis l'Empire ottoman. Mais bon, place aux jeunes, donc c'est... Il la remplace par grand-mère Bouteflika qui apprend le poste. Comme ça lui permet de lever un peu le pied. Parce que vous savez, je le trouve agité en ce moment.
Ah bon?
Ah si. Écoutez-le, là.
Purée, je vais de la purée.
Il est déchaîné, on dirait un ado en crise. Vous allez voir que dans 3 jours, il va me réclamer une mobilette.
Blague à part, c'est assez inédit comme mode de chute, si la chute se confirme, d'un régime autoritaire, que ce se fasse par l'excès de gratisme, pour le dire comme ça, ou d'incapacité, pour être plus aimable, du chef théorique du dit régime autoritaire. Il y avait ce matin sur Europe 1 une chronique de François Clémenceau qui disait que si on voulait faire des comparaisons, ce qui était toujours très hasardeux, il fallait moins regarder du côté des printemps arabes que par exemple de ce qui s'est passé après la chute du mur en Europe de l'Est. Est-ce que cette comparaison un peu audacieuse, et alors il en déduisait aujourd'hui, pour être plus précis dans la question, Alain Frachon, il en déduisait, et on cherche aujourd'hui et le Valessa et le Jaruzelski.
C'est un peu toute la question que posent ces manifestations répétées, extraordinairement nombreuses, extraordinairement pacifiques, extraordinairement respectueuses de tout ce qui peut se trouver dans la rue,
mais drôle,
il n'empêche,
et drôle,
absolument, avec un humour, pour le coup un humour qui rappellerait l'Europe de l'Est, d'ailleurs,
oui.
Absolument,
oui.
Tout à fait ce type d'humour, oui. Mais avec une sorte de d'irrespect extraordinaire, mais bon enfant aussi, pour le régime ou pour le système. Mais il reste que... C'est un mouvement protestataire qui n'est pas relayé par des partis politiques ou difficilement relayé par des partis politiques et dont, au fond, la revendication principale, c'est « dégage ». Ok, dégage. Alors, il y a un processus constitutionnel qui a été mis en route par le chef de l'armée, mais l'armée, c'est toujours le système. Alors, il faut que le système dégage. Il se trouve qu'il y a une constitution... Il se trouve qu'il y a des partis d'opposition, mais on les voit mal relayer ce mouvement. Et surtout, je pense que ce type de mouvement se heurte à un moment à l'extraordinaire simplification ou simplisme de la revendication. La revendication, elle est entendue, elle est claire, ils ne veulent plus de ce système. C'est bien, mais le système ne va pas comme ça partir du jour au lendemain. Il va falloir à un moment ou un autre une médiation politique. Il va falloir à un moment ou un autre une médiation parlementaire ou à travers des formations politiques ou syndicales.
C'est d'ailleurs la limite de la comparaison de notre ami François Clémenceau, c'est qu'il n'y a pas de Solidarnosc et il n'y a pas de Valessa. François Gaudemont.
Oh, ça me fait penser à deux choses. Mao expirant et la succession, à l'époque, c'était quelqu'un qui s'appelait Roi Gofeng, qui n'a pas duré plus d'un an. Mmh. Et la légitimité de la succession, c'est qu'à côté de son lit, si j'ose dire, Mao lui avait dit « Avec toi aux affaires, j'ai confiance ». Ni ban che wo fang xin en chinois. Et puis il y a la théorie des deux corps du roi qui est revenue à la mode en France. Et alors là, vraiment, l'Algérie nous montre que le corps physique compte moins que l'espèce d'édifice abstrait du pouvoir autour d'un monarque finalement absent.
Mmh. Très bien. Bon, maintenant, vous avez évoqué la Chine, ça tombe bien. La semaine a commencé assez chinoise, si je puis dire, avec quelque chose de relativement inédit, même je crois totalement inédit. C'est-à-dire que on reçoit un dignitaire chinois, on reçoit l'empereur, on reçoit le responsable du pouvoir, Xi Jinping, mais ça n'est pas que le président de la République qui le reçoit, se sont joints à lui la chancelière allemande et le président de la Commission européenne. Alors, est-ce que je me trompe ou pas en disant que c'est tout à fait sans précédent? Et deux, est-ce que ça n'est qu'un coup de com' ou est-ce que ça a une réelle importance?
Alors, pour moi, c'est sans précédent, si on exclut les sommets UE-Chine. Mmh. Mais les sommets UE-Chine, jusqu'ici, ne rassemblent pas tout le monde, de toute façon. Mmh. Il y a un précédent français, au moins dans la parole, qu'on a complètement oublié. Nicolas Sarkozy avait dit un jour qu'il aimerait bien aller à Pékin avec, à l'époque, c'était M. Cameron, et déjà, bien sûr, Mme Merkel. Et puis, il ne l'avait pas fait. Mmh. Là, je pense que ce sont les circonstances qui ont conduit. Xi Jinping frappant et poussant même toutes les portes, allant en Italie et même à Monaco avant de Paris, qu'une visite d'État un peu courte, il fallait réagir sans doute et montrer que l'Europe ne peut pas se laisser fragmenter comme ça à l'infini.
Alain Frachon ?
Moi, je pense aussi que c'est un geste très important, particulièrement alors qu'on entre dans une période d'élection européenne, alors qu'il y a souvent une vague d'euroscepticisme sur l'Union européenne. Je pense que le geste de Macron est très important. Il montre non, nous ne faisons pas le poids seul en bilatéral face à la Chine. Non, ça n'a pas de sens. Et nous n'obtiendrons que, en tant qu'Union européenne, les concessions que nous voulons avoir avec la Chine dans le domaine économique, en ce qui concerne les relations commerciales ou le statut des investissements. Et donc, il résume ça, je crois, me semble-t-il, en deux mots. C'est fini la naïveté. Ou une manière d'angélisme dans les relations avec la Chine, et nous voulons la réciprocité. Alors la réciprocité, c'est un mot, je crois, que les Chinois n'aiment pas beaucoup, mais que finalement, Macron, qu'il avait déjà dit lors de sa première visite à Pékin, il a mis ça sur la table. Réciprocité.
Écoutez, Emmanuel Macron, c'était à l'Élysée lundi.
Et l'enjeu est aussi de démontrer dans les faits que la coopération rapporte plus que la confrontation, et que nous avons plus à gagner à l'ouverture qu'à la fermeture. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde.
Alors, il y a les données strictement politiques. Et ce que je trouve intéressant aussi, d'ailleurs, c'est que dans une période où, comme précédemment, l'Europe politique a du mal à vraiment exister, je veux dire à exister en tant qu'entité politique à 28, normalement bientôt 27, et que c'est assez nouveau de se dire, bah, si on n'existe pas à 27, on peut au moins exister à 3 ou à 2,5, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, et associer indirectement les institutions par la présidence de la Commission. C'est quand même une façon de Alain Frachon disait tout à l'heure, c'est une leçon de modestie sur la réalité de la puissance française aujourd'hui, mais c'est aussi une forme d'innovation de faire ça comme ça, François Gaudemont.
Dans le jargon de la géométrie européenne, on appelle ça les actions d'avant-garde, ou les avant-gardes.
Oui.
Donc d'une certaine manière, les trois, c'est ça. On oublie un peu que Juncker quand même symbolise la Commission et les 26 autres, ou 25 autres, peut-être. Je suis un peu prudent sur ce thème parce qu'il y a un risque, comme c'est l'axe franco-allemand, qui pourtant, comme vous l'avez dit, n'existe pas si fort, pas si concrètement en ce moment, que ça ne plaise pas aux autres.
Oui, c'est toujours
et
le problème.
Il y a un risque de réaction. En tous les cas, les pays méditerranéens, eux, ont tendance à réagir en disant « Oui, vous nous donnez le son, mais vous signez les contrats. »
Et nous. Cela dit, il y a l'autre dimension qui est l'accélération de la puissance économique chinoise et avec elle, parfois, éventuellement d'un déclin, notamment industriel en France. On voit ça dans quelques instants.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel, avec Mediapolis. Et alors ce matin, à vos côtés, il y a Alain Frachon, éditorialiste au journal Le Monde, et François Gonnement, conseiller de l'Institut Montaigne et spécialiste de la Chine.
Donc il y a eu la visite de Xi Jinping à Nice, au Negresco, à Paris, avec Juncker, avec Merkel. Mais il y a eu un autre événement, peut-être au moins aussi important cette semaine, voire plus, c'est qu'on a annoncé que la voiture électrique Smart, sauf erreur de ma part, ne serait plus fabriquée en France, mais en Chine. Écoutez l'extrait de la chronique d'Axel de Tarlé, jeudi matin sur Europe.
Est-ce que l'avènement de la voiture électrique, est-ce qu'elle va générer d'autres délocalisations? Et ça, c'est la grande crainte que manifestait le patron de Peugeot Citroën il y a 3 semaines. L'Europe s'est imposée, dit-il, un virage électrique le plus ambitieux du monde. Avec ce virage électrique, alors vous voyez, la petite Smart qui part en Chine ne pourrait malheureusement être qu'un signe avant-coureur d'un mouvement plus large. Et donc oui, après le textile, après l'électroménager, après l'électronique, ne faut-il pas d'urgence s'inquiéter de ce que l'automobile pourrait maintenant à son tour partir en Chine ?
Axel de Tarlé sur Europe 1, jeudi 28 mars. C'est assez simple à comprendre. On décide de passer massivement aux véhicules électriques pour l'automobile. Ces véhicules ont besoin de batteries. Aujourd'hui, la quasi-totalité des batteries, l'immense majorité des batteries, est fabriquée en Chine. Et donc, pour simplifier la fabrication de la voiture, on va faire la voiture à côté de l'endroit où on fait la batterie. Sauf que si on s'avère toujours incapable de fabriquer, nous, des batteries compétitives en Europe, ça risque d'être la fin de l'industrie automobile en Europe, purement et simplement. Ça vous laisse perplexe, messieurs. Alain Frachon.
C'est typique, je crois, de la question que nous pose le capitalisme à la chinoise. J'imagine, je parle sous le contrôle de François, mais j'imagine qu'il y a 20 ans, les Chinois se sont dit « on va passer au tout électrique ». Et donc, les compagnies chinoises qui veulent se lancer dans l'exploitation de brevets, de batteries, et d'ailleurs je crois qu'au départ c'est un brevet français, c'est des gens du CNRS qui ont mis au point le meilleur brevet en matière de batterie pour conserver l'électricité.
Ouais,
et donc ces sociétés-là, elles vont avoir le crédit, parce que le crédit est nationalisé, et le gouvernement central lui dit, quel que soit l'état de la société, quel que soit son avenir, vous lui prêtez de l'argent, et elle va bénéficier comme ça d'un certain nombre d'avantages qui sont l'apanage du capitalisme d'État à la chinoise. Après, il y a le dynamisme et le talent des Chinois, bien entendu. Mais c'est une des questions que nous pose le capitalisme chinois. Est-ce que nous pouvons entrer en concurrence avec une machine comme ça, où l'État, finalement, vient donner une impulsion, mais pas simplement une impulsion. On est au-delà même d'un système de subvention. C'est un capitalisme hybride, nous ne pratiquons pas le même, et nous sommes en désavantage face à ce type de politique industrielle. On se réveille tout juste, parce que les Allemands se sont réveillés. Mais ça fait longtemps que les Français leur disent, au niveau de l'Europe, il faudrait une politique industrielle. Mais ni les Allemands, ni les Britanniques, ni les Scandinaves n'en voulaient.
François Gonnement, votre livre s'appelle « La Chine à nos portes », mais je n'ai pas cité le sous-titre. Une stratégie pour l'Europe, on est en plein dans le sujet.
Alors on est complètement dans le sujet et on avance aussi parce qu'au-delà de la stratégie défensive, il y a maintenant cette demande directe et appuyée par la présence des Européens sur de la réciprocité, c'est-à-dire de l'ouverture en Chine, c'est-à-dire une place pour un certain nombre d'entreprises européennes. On ne peut pas être uniquement dans le mercantilisme ou dans le protectionnisme, si vous voulez. Si on prend le cas de Daimler, par exemple, qui d'ailleurs a annoncé qu'il continuerait à fabriquer des voitures électriques, précisément, en Lorraine, mais plus chères, des voitures plus haut de gamme. Le premier marché mondial de Daimler, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Il y a un seul modèle de Daimler qui est vendu en Chine, qui n'est pas fabriqué en Chine, c'est le vaisseau amiral. Vous savez, je ne fais pas de pub, mais la grosse. Tout le reste, maintenant, est délocalisé. Et les Allemands sont coincés, ils sont les premiers à être coincés parce qu'ils ont la plus grosse industrie, tout simplement, les Chinois ont mis le paquet sur la batterie. Si les Chinois disent qu'on va rouler à l'électrique en Chine, eh ben les gens vont devoir rouler à l'électrique, que ça leur plaise ou pas. Il n'y aura pas de gilet jaune, par parenthèse, sur ce dossier-là. Et donc, ils ont effectivement une longueur d'avance.
Et ça, ce n'est pas un problème de réciprocité, ce n'est pas un problème de fermeture du marché chinois, c'est un problème d'avance qu'ils ont par
Alors,
rapport à nous.
Alors, attention, ça recoupe quand même les deux. Si, par exemple, les critères pour les batteries sont tels que les fabricants étrangers en Chine sont obligés de s'approvisionner en batteries chinoises, il y a quand même des concurrents, il y a quand même les Coréens, il y a quand même les Japonais. Alors on reste en Asie, effectivement, on est parfois allié avec eux. Non, il y a aussi du dirigisme et forcené en direction des entreprises étrangères en Chine. Et je crois que la voiture est un exemple parfait.
Très bien. Et alors juste avant, Alain Frachon a fait pour moi une sorte de tableau idyllique ou de tableau d'apologie de l'efficacité du capitalisme autoritaire à la chinoise. Et il m'a fait penser à un président de la République française qui avait fait la même évaluation poussée encore plus loin. Je vous raconte ça dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit ce samedi François Godemont, conseiller de l'Institut Montaigne et auteur de La Chine à nos portes aux éditions Old Deal, et Alain Frachon, éditorialiste au journal Le Monde.
Alain Frachon qui... soit a été inspiré par Nicolas Sarkozy, soit a inspiré Nicolas Sarkozy, puisque dans un enregistrement que BuzzFeed et Le Monde avaient pu obtenir, Nicolas Sarkozy a salué lors d'une conférence dans les Émirats Arabes Unis il y a un an, le modèle politique chinois et la possibilité d'une présidence à vie. Je cite Alain Frachon, non pardon, je cite Nicolas Sarkozy. Le président Xi considère que deux mandats de 5 ans, 10 ans, c'est pas assez, il a raison. Le mandat du président américain, en vérité, c'est pas 4 ans, c'est 2 ans. Un an pour apprendre le job, un an pour préparer la réélection. Donc vous comparez le président chinois qui a une vision pour son pays et qui dit 10 ans, c'est pas assez face au président américain qui, en vérité, a 2 ans. Et un peu plus loin, il ajoute. Les démocraties sont devenues un champ de bataille où chaque heure est utilisée par tout le monde, réseaux sociaux et autres, pour détruire celui qui est en place. Comment voulez-vous avoir une vision de long terme pour un pays? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands leaders du monde sont issus de pays qui ne sont pas de grandes démocraties. Alain Frachon.
Je me défends catégoriquement de me situer dans cette lignée idéologique du capitalisme autoritaire et je préfère le chaos que décrit, qui est celui de nos sociétés, le chaos créateur. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment, la part de liberté que nous avons suppose aussi une part d'aimable chaos, ou de chaos d'ailleurs par moment, moins aimable, mais rythmé, effectivement, à intervalles réguliers, je suis désolé, Nicolas Sarkozy, à intervalles réguliers par des élections.
Bon, alors je vous ai permis cette clarification. Derrière ça, et blague à part, il y a quand même une question de fond. Alors, on va la poser, même si d'ailleurs vous venez de répondre sur le fond, mais on va la poser autrement, pour commencer, François Godemont. Il me semble qu'il y a, allez, en tout cas il y a un demi-siècle, personne n'aurait imaginé que la Chine devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde imaginait, enfin, les gens imaginaient que la Chine allait croître, qu'elle allait être un acteur plus important. Attends, mais c'est pas ça dont je parle. Sur la combinaison entre capitalisme presque à outrance et maintien d'un régime communiste dur. Personne, non seulement l'imaginait, mais en plus, personne ne pensait presque que ce soit possible. Parce qu'on théorisait que si on devient capitaliste, par nature, par le mouvement naturel des choses, inéluctablement, la démocratie suivra et tout, tu parles.
Absolument, il y a ceux qui croyaient que l'économie chinoise ne pouvait pas se développer à ce point-là, que ça ne marcherait pas sur le plan économique. Et il y a ceux qui pensaient que parce qu'elle se développerait, le communisme serait soluble dans l'économie de marché. Les deux ont eu tort, ce qui, ça laisse absolument personne d'ailleurs, effectivement, moi y compris, et bien d'autres dans la prévision juste, si vous voulez, on sait tous.
Pour une raison assez simple, hein, c'est que c'est totalement inédit, et que la seule chose qu'on ne sache pas prévoir, c'est l'inédit.
C'est inédit, ça tient probablement aussi au fait que ce pouvoir avait fait l'expérience de la terreur avec Mao, et que la première génération de dirigeants a été beaucoup plus sage en termes de gestion du pouvoir. On parlait de direction collective, on avait certes une main très 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 dure, mais on évitait le retour au pouvoir personnel et donc les aberrations les plus fortes. Et puis il y a eu la reprise, qui est celle de toute l'Asie à l'époque de la révolution industrielle, du modèle occidental, moins l'aspect démocratique.
Est-ce que, Alain Frachon, vous êtes, et d'ailleurs François Godemont, je pose la question aux deux, est-ce que vous êtes maintenant convaincu que, c'est pas une question d'appréciation, hein, de jugement, que ça peut durer. Et que donc la thèse sur le capitalisme, au bout de l'histoire, entraînant obligatoirement la démocratie, les Rantzolis Neu.
Tous ceux qui, comme le dit François, qui avaient prédit il y a ces 25 ou 30 ou 40 dernières années qu'il y avait une contradiction dans le système et qu'à un moment ou à un autre, le développement du capitalisme et d'une vaste classe moyenne amènerait une ouverture politique, se sont trompés. Et pourtant, si vous lisez un document invraisemblable, pas comique, mais très intéressant, qui est le rapport qu'a lu Xi Jinping à l'issue du dernier congrès du Parti communiste chinois, je crois que
l'année
c'était
dernière,
en 2017,
ouais. Fin
2017, ouais. Octobre 2017, je crois. Ouais. Et vous avez là la description de ce qu'il veut, une économie de la connaissance, une économie de l'innovation, un appel à la créativité intellectuelle et scientifique, doublé d'une fermeture politique comme on n'en a jamais vu. Doublé de l'obligation de la présence du Parti communiste, doublé de l'obligation à tous les niveaux de la société d'en référer au parti, de penser à nouveau le marxisme-léninisme, etc.
De la censure généralisée.
Et à un moment où vous vous dites, est-ce qu'il n'y a aucun lien entre la Silicon Valley et la démocratie ? Est-ce qu'ils peuvent faire leur Silicon Valley, un niveau de créativité scientifique et intellectuelle que suppose une économie de la connaissance ? Et dans le mouvement inverse, mais simultané, parce que c'est ça qu'incarne Xi Jinping. C'est la simultanéité des deux mouvements. Et c'est ça qui me paraît nouveau dans la direction chinoise depuis 30 ans. Et dans le même temps qu'ils font cet appel à la créativité, atteindre un niveau de fermeture politique, moi je ne suis pas spécialiste, mais qui rappelle quand même les années du maoïsme, j'imagine.
François Godemont.
Oui, sur le plan du culte de la personnalité, sur le plan de la main qui s'abat aujourd'hui, non seulement sur les dissidents et leurs avocats, mais sur des minorités entières comme au Xinjiang, on est en train d'aller très loin, et vous avez des Chinois qui s'interrogent sur une deuxième révolution culturelle, mais orchestrée d'en haut. Plus fondamentalement, ce que je voudrais dire, c'est qu'en même temps, la Chine, elle est fermée, mais nous lui sommes ouvertes. Elle a donc continué à tirer le meilleur de la technologie, le meilleur des échanges de la connaissance, à bénéficier du marché mondial avec des excédents énormes. Elle est encore aujourd'hui qualifiée d'économie en développement alors que son revenu par tête dépasse celui de certains pays européens. Donc il y a là-dedans aussi un opportunisme, si vous voulez, qu'on a continué à accepter. C'est pour ça que la réaction est si forte
et
aujourd'hui.
Et du coup, peut-être que quand même vous répondrez aussi à ma question à savoir si ça peut durer dans quelques instants.
Alain Frachon, éditorialiste au journal Le Monde, et François Godemont, conseiller de l'Institut Montaigne et spécialiste de la Chine, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Et François Godemont, vous deviez me répondre avant que j'en vienne au Brexit sur la possibilité que cela dure très longtemps.
Très longtemps. Pour moi, ça va durer longtemps. Il n'y a que deux cas de figure. Soit on reste ouvert et il continue à bénéficier des technologies, il y a une expansion internationale pour l'économie chinoise, le système est viable. Soit on se ferme d'une manière ou d'une autre, et là, le régime jouera le nationalisme revendicatif, l'amertume, si vous voulez, et fera ce que Poutine a fait d'une autre manière, en accusant l'Occident. Voilà. Et pour l'instant, donc, la seule chose que je peux envisager, c'est le jour où il y aura une succession, ça sera forcément par une crise, puisque le pouvoir a été complètement personnalisé à nouveau.
Très bien. Pendant ce temps-là, les démocraties, elles ne sont pas seulement en rivalité industrielle, économique, technologique, avec la montée de la puissance chinoise, elles sont aussi en grande difficulté politique. Et ça, on l'a vu à un point inimaginable cette semaine de l'autre côté de la Manche. Alice Baudry, qui dirige la stratégie de développement de l'Institut Montaigne et surveille pour nous ce qui se passe dans les médias internationaux, avait attiré il y a quelques semaines notre attention sur une interview de la journaliste de la BBC, Emily Maitlis, qui avait roulé des yeux d'indignation presque, de stupeur à la télévision, parce qu'un dirigeant du Labour était totalement incapable de donner la position de son parti. Alors cette semaine, ça s'est amplifié et les tabloïds comme le Daily Mail s'en servent. Hier, vendredi, cette même journaliste était avec Nicolas Watt, W-A-T-T, je ne sais pas comment on prononce, Watt, l'éditeur politique de BBC, qui a dévoilé la tirade énervée d'un ministre juste après s'être entretenu avec un membre du cabinet de Theresa May. Ce journaliste nous dit « Alors que je suis au sein du cabinet, je ressens un désespoir total. J'ai dit à un ministre, alors, pour la première ministre, pourquoi la première ministre tient-elle à un vote alors qu'elle est à peu près certaine qu'elle va perdre ?» Et usant de mots forts, ce ministre m'a dit « Fuck knows !» Qui sait ? Foutre qui sait, littéralement. Foutre qui sait, fuck knows. Je ne m'en soucie plus du tout. C'est comme les morts vivants ici. Le ministre qui dit, c'est comme les morts vivants. Et il a également dit, Theresa May est la seule architecte de ce gâchis. C'est son incapacité à participer aux interactions humaines les plus fondamentales qui nous ont amenés ici. Vlan pour Theresa May. Mais je dirais quand même, vlan pour l'ensemble. Et Dieu sait que j'aime pas abuser de cette expression de la classe politique britannique. Parce que ce qui est extraordinaire dans ce qui s'est passé mercredi, les 8 votes, c'était mercredi. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est eux qui ont exigé ça. C'est le Parlement qui a exigé d'avoir ce pouvoir. C'est le Parlement qui a exigé de faire 8 votes. Donc c'est le Parlement qui a exigé l'exhibition de sa nullité. Alors ça, souvent les hommes politiques font des erreurs. Souvent ils font même des nullités. Mais en général, ils n'organisent pas le spectacle de la mise en scène de leur faiblesse. Là, ça dépasse l'entendement. Alain Frachon, vous connaissez bien le Royaume-Uni.
Écoutez, ce mercredi était passionnant. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils ont fait, les membres de la Chambre des communes ? D'abord, je trouve très intéressant que le Brexit se fait sur une des revendications du Brexit, c'est la souveraineté de la Chambre des communes. Mmh. Donc la Chambre des communes, dans sa pleine souveraineté, est chargée de mettre en œuvre un référendum qui posait une question assez basique, on reste ou on part. Eh bien la Chambre des communes examine ce jour-là 8 possibilités de Brexit. 8 sorties de crise. Mmh. 8 possibilités de Brexit, ou sorties de crise plus exactement.
De Brexit ou non Brexit.
Voilà.
De fin de crise. 8 scénarios de fin de crise.
8 scénarios de fin de crise. Aucun de ces scénarios n'a la majorité. Mmh. Aucun. Il n'y a pas de majorité. Mmh. Alors bon, effectivement, ce n'est pas étonnant. On peut dire que la classe politique britannique donne un spectacle affligeant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Effectivement, c'est un bazar invraisemblable, mais ça se passe à l'intérieur de la Chambre des communes. Ça se passe pas dans la rue.
Écoutez, je suis en désaccord total avec vous. Moi, je pense que quand il y a un référendum insensé, fait par un abruti qui s'appelle Cameron, qui fait ça pour des raisons de politique intérieure partisane, même pas de politique générale, de son petit parti, qui comprend rien à rien, qui perd le truc. Un référendum qui se passe dans des conditions très choquantes. Pas seulement la campagne, mais pour prendre un seul exemple, les expatriés n'ont pas le droit de vote alors que ce sont les premiers concernés. Et qu'il y en a 1 500 000 et que l'écart n'est que de 400 000.
Et on ne parle pas de l'Europe pendant la campagne.
Voilà, bref. Mais ça a eu lieu. Les gens en charge ont 3 ans pour régler les conditions dans lesquelles ça a lieu. Le boulot élémentaire de vos responsables politiques, c'est, pendant ces 3 ans, de trouver la solution pour organiser cela. Et donc c'est un fiasco de ne point y parvenir. Et là, vous allez répondre à mon objection. Mais avant, François Godemon va peut-être la conforter. Je ne sais pas. C'est dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos deux invités, Alain Frachon, éditorialiste au journal Le Monde, et François Godemon, conseiller de l'Institut Montaigne et auteur de La Chine à nos portes aux éditions Aldil.
Allez, encore un peu sur le Brexit, parce que j'en reviens quand même pas qu'Alain Frachon ait trouvé absolument formidable que la Chambre des communes ait refusé à 8 reprises tous les scénarios. Vous pouvez essayer de m'expliquer, Alain Frachon.
Je dis que c'est très révélateur d'une question de fond. Si vous décidez de quitter l'Union européenne, à ce moment-là, vous ne pouvez pas entamer une négociation avec l'Union européenne en disant que vous voulez continuer à avoir les avantages du marché unique, que vous voulez continuer à avoir les avantages de l'union douanière pour ne pas avoir à mettre une frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Si c'est comme ça la base de la négociation, et c'est ainsi que l'a posé Mme May, en mettant elle-même ses lignes rouges, nous sortons du marché unique, entre parenthèses une création très britannique, nous sortons de l'union douanière qui va avec, parce qu'il y a une logique, mais nous ne voulons pas non plus qu'il y ait à nouveau une frontière entre l'Irlande, la République d'Irlande, et l'Ulster, ni même
entre l'Ulster
et la Grande-Bretagne.
Et la Grande-Bretagne, oui.
Bon, c'est piégé au départ. Vous n'allez pas y arriver ou vous arrivez à un mauvais accord. Et c'est l'accord qu'elle a conclu il y a quelques semaines ou quelques mois avec l'Union européenne. Et effectivement, c'est un mauvais accord. Ce n'est pas un bon accord. Il n'y aura pas de majorité sur cet accord. Encore qu'elle est capable, parce que c'est une ambulancière anglaise sous le blitz, elle est capable d'aller d'ici au 12 avril, la date limite fixée par l'Union européenne, elle est capable de retourner devant la Chambre des communes. Mais tel quel, il faut céder sur un point. Mais tel quel, l'accord ne peut pas être un bon accord du fait des lignes rouges qu'elle a posées elle-même.
Mais dans le fond, François Godemont, tout ça, on aurait dû le savoir dès le début. Je veux dire, il n'y a pas besoin, évidemment, c'est un peu technique, mais il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie ou prix Nobel de politique pour comprendre qu'il y a une république qui s'appelle la République d'Irlande qui fait partie de l'Union européenne, que on a voulu dans la paix avec l'Irlande du Nord, qu'il n'y ait plus de frontières entre elle et l'Irlande du Nord, et que si on sort du vraiment de l'Union européenne, il faut mettre une frontière et que c'est incompatible de pas mettre de qu'il n'y ait pas de frontière, mais qu'il y ait une frontière, parce que où il y a une frontière, où il n'y a pas de frontière. Comment c'est même possible que des politiques n'aient pas compris ça d'emblée ? Et du coup, qu'on arrive au bout de l'histoire quand même à ce qui ressemble à un fiasco. Imaginez juste, vous êtes aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur français ou britannique. Vous savez pas si dans un mois, vous pourrez continuer à faire vos affaires comme vous les faites aujourd'hui. Vous êtes un étudiant à Oxford, en cours de cycle. Vous savez pas si l'année prochaine, vous pouvez rester à Oxford. Non, mais c'est quand même démentiel. C'est pas seulement des trucs abstraits, intello, compliqués. Ça concerne la vie des gens.
Il y a la politique par la raison, puis il y a la politique aux tripes. Le référendum, vous savez que quand on pose un référendum, souvent la réponse c'est non. Le référendum, il a été gagné par la politique aux tripes. Le symbolise quelqu'un comme Boris Johnson, qui aussi aujourd'hui fait tout pour prendre la suite de Theresa May, qui a parti au même parti, et qui a changé trois fois d'avis sur tout avec une démagogie parfaite. Et on a à gauche, si j'ose dire, au Parti travailliste, Jeremy Corbyn, qui est, comment dire, même pas décongelé des années 70, si vous voulez, qui est un personnage absolument paradoxal, mais qui attend son heure comme le corbeau sur son arbre. Donc, on est dans cette situation. Mais ça doit nous apprendre quelque chose, d'ailleurs.
Pour son seul intérêt direct politicien, est capable de
oui, mais tous les
laisser aller au chaos.
Non. Oui, mais tous les politiciens regardent leur intérêt.
Non, mais pas seulement. Arrêtez, il y a quand même des moments dans notre histoire dans lesquels, face à des très 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 grands enjeux, excusez-moi... où les gens se regroupaient au Conseil National de la Résistance, à la Libération, en début de la Ve République.
Et c'est un grand enjeu.
Vous voyez, oui, quand dans des situations extrêmes comme ça, au moment des grands votes européens de Maastricht, où Jacques Chirac, dans l'opposition, venait soutenir la position de François Mitterrand, c'est pas vrai que chacun n'était toujours que sur son petit truc.
Vous mesurez pas quelque chose qui est que, pour l'instant, la catastrophe économique annoncée ne s'est pas produite pour le Royaume-Uni. Peut-être qu'on est en train de tomber du 30e étage et qu'on va bientôt arriver au rez-de-chaussée. Mais pour l'instant, tout va bien, ou presque. Et par conséquent, il n'y a pas ce sentiment d'alerte complet, en dehors du désarroi devant les bagarres, si vous voulez, qui se déroulent au Parlement. Donc moi, je souligne un risque qui est beaucoup plus large pour les démocraties. C'est que les politiciens commencent à penser que c'est plus rentable pour eux de dire non que de dire oui. Et que s'ils prennent des postures, si vous voulez, ils ont des chances de gagner du vote. Et ensuite, on verra bien. Mais c'est ça, ce qui s'est passé
avec l'histoire du référendum. Alors là, vous avez raison, là c'est le fond du problème, parce que comment un type comme Boris Johnson puisse avoir, ne serait-ce que le début d'une chance, de succéder à Theresa May, alors que, comme vous l'avez rappelé, il n'a cessé de changer d'avis, et de dire tout et son contraire, et on ne lui en tient pas rigueur.
C'est la politique du mensonge, si vous voulez, et désormais, ça va avec les fake news, ça va avec beaucoup de choses. Les gens qui n'ont plus beaucoup d'organisations politiques, qui n'ont plus beaucoup d'épines dorsales politiques, sont prêts à écouter les mensonges.
Oui, moi, je répète, parce que je l'ai déjà dit, peut-être je le répéterai jusqu'à la nuit des temps, je ne pensais pas vivre dans un pays dans lequel un grand responsable ou une grande responsable politique pouvait dire dans une grande émission politique qu'en France, le SMIC horaire, qu'il était 4 euros en Bulgarie, mais de 34 euros de l'heure en France, c'est-à-dire 5000 euros par mois de SMIC, et que, Marine Le Pen en l'espèce, et que, c'est pas grave, elle a dit ça, mais c'est pas grave, elle s'est trompée. On lui en tient pas vraiment rigueur, les électeurs ne lui en tiennent pas rigueur. Bon, donc, quand vous dites que la politique du mensonge ou du n'importe quoi paye, c'est ça qui est effrayant, et d'une certaine manière, c'est aussi ce qu'on a vu ou ce qu'on voit avec Trump aux États-Unis. On en parle dans un instant.
De 10h à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et Olivier, vous recevez ce matin le conseiller de l'Institut Montaigne et spécialiste de la Chine, François Godemont, et l'éditorialiste au journal Le Monde, Alain Frachon.
Et belle semaine pour Donald Trump. Écoutez ce qu'en dit l'historien spécialiste des États-Unis, François Durpère, mardi.
Sur le plan politique, c'est une victoire absolue. Ça fait 33 mois qu'on parle de cette histoire. Hein. Juillet 2016, avant l'élection de Donald Trump. Du coup, son discours, eh bien, on peut le créditer d'un discours qui tient la route. Sur le plan politique, ça veut dire Donald Trump a raison et ça veut dire vaste communicant. Ça discrédite totalement le discours des démocrates qui, depuis 33 mois, disaient c'est un candidat d'étranger et c'est devenu un président illégitime. C'est en quelque sorte la deuxième défaite des démocrates, beaucoup plus cruelle que la première 2016, parce que là, ça veut dire que la victoire, il ne devait qu'à lui-même.
Et ce dont il s'agit, c'est la mise hors de cause par le procureur chargé de l'enquête de Donald Trump sur l'utilisation, la connivence avec les Russes dans la campagne présidentielle américaine. Alain Frachon, c'est un beau succès pour Donald Trump.
C'est un succès ponctuel, conjoncturel, ça dure jamais très longtemps pour une raison qui me paraît assez facile à expliquer. Le rapport de ce procureur indépendant dit que l'équipe de Donald Trump, pendant la campagne électorale, n'a pas pactisé avec les Russes pour truquer l'élection. Mais il dit l'élection a été truquée, enfin les Russes en tout cas, non il ne dit pas que l'élection a été truquée, il dit les Russes ont mené une opération d'ingérence massive dans nos élections, mais le Parti républicain n'y a pas participé, il n'y a pas collusion. En revanche, deuxième chef d'accusation sur lequel il travaillait, en revanche, le président, lui, parce qu'il y voyait une sorte de procès permanent à sa légitimité, le président a-t-il fait obstruction au travail de la justice sur cette question de la collusion et sur mon enquête à moi, procureur indépendant ? Et là, le procureur indépendant, qui est une figure invraisemblable d'ailleurs dans le milieu américain, une très belle figure, dit « Je refuse d'exonérer le président ». Troisième point. Nous ne savons de ce rapport que 4 pages, qui certes sont le résumé qu'en a fait le procureur et qu'il a donné aux parlementaires, qu'il a donné au Congrès américain. Le rapport fait 300 pages. Bataille constitutionnelle à venir, comme vous l'imaginez en Amérique, la presse, la Chambre des représentants à majorité démocrate va se battre pour obtenir que ce rapport soit public. Et il va l'être inévitablement dans les 2 ans qui viennent. Et à chaque paragraphe, vous trouverez des choses qui ne sont pas très bonnes pour Donald Trump.
Donc ce n'est pas fini en vérité. François Godemont, un mot ?
À la fois, je souscris complètement à ce que dit Alain Frachon. Et en même temps, si on regarde la façon dont les choses se passent vis-à-vis des présidents aux États-Unis, soit vous pouvez les mettre en accusation, ce qu'on appelle l'impeachment, oui, avec un terrain formel, soit vous ne pouvez pas. Je ne pense pas que vous allez le faire 2 fois sur des terrains différents. Donc Trump a quand même gagné une manche extrêmement importante. Et les démocrates se retrouvent un peu face à eux-mêmes, parce que pendant ce temps-là, ils n'ont pas clairement tranché sur leur plateforme, leur façon de réagir à Trump pour les élections dans moins de 2 ans maintenant. Et ça, c'est grave.
Alors, on commence nos émissions toujours avec Canteloup. Et quand on peut, on les termine avec Paul Lassen, parce qu'il nous trouve des choses assez comiques et totalement réelles. Et cette semaine, il a trouvé une interview de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa est souvent une assez bonne cliente, il faut dire, pour le site Télé Loisirs, dans lequel elle charge les émissions d'Élise Lucet, Envoyé spécial et Cache Investigation. Je suis toujours interpellé par ce qui est devenu le format d'Envoyé spécial et par l'émission Cache Investigation, dit-elle. Cette image véhiculée de politiciens véreux, magouilleurs, haineux incite les gens à penser aux tous pourris pour les politiciens et à verser dans le populisme. Jusque-là, moi je suis assez d'accord par exemple. Je ne le dis pas pour ne pas m'attirer des ennemis, pas, mais si on me posait la question totalement off, je dirais que je suis assez d'accord. Ce n'est pas la forme du journalisme, pas ça pour moi le journalisme, la chasse aux sorcières. Mais elle ajoute, j'aimerais bien qu'il y ait de belles histoires. Et elle donne des conseils. J'aimerais bien qu'on alterne et que de temps en temps, il y ait de belles histoires et des prismes politiques, que l'on parle des responsables politiques qui s'engagent, souvent pour pas grand-chose, au service de l'intérêt général, il y en a des milliers. Alors là, ça, on bascule quand même dans un schéma soit bisounours, soit soft dictatorial, si le pouvoir politique, alors il suggère, il n'impose pas, donc n'exagérons rien, mais il commence à suggérer qu'on raconte des belles histoires sur les politiques à la télévision. Donc je pense qu'entre le journalisme à la Tchapa et le journalisme à la Élise Longuet, finalement il y a un océan, Alain Frachon.
Bah oui, sur la première partie, bon, moi je suis pas un spécialiste des affaires locales, des affaires françaises, mais enfin, je crois quand même qu'on peut pas comme ça balancer en permanence une sorte de soupçon de corruption sur toute la classe politique française, qu'ils soient élus ou dans des fonctions exécutives. Or, malgré tout, c'est un peu l'air du temps. Et cet air du temps, il a été un peu fait par les médias, y compris le mien d'ailleurs, dans cette histoire. Ça pouvait être justifié pour avoir une loi sur le financement des campagnes et des partis politiques.
Non, mais attention,
je crois qu'on a la meilleure.
Mais je ne dis pas que, les journaux n'ont pas à révéler des scandales. Évidemment que si. Je dis juste le système dans lequel, par exemple, on voit Élise Lucet, que je ne cite pas pour ne pas m'attirer d'ennemis, courir dans les parlements européens après quelqu'un, tantôt Rachid Dati, tantôt je sais pas quoi. Alors vous avouez, alors c'est vrai. Non, ça, c'est pas comme ça qu'on fait le travail.
Non, ça, c'est certain. Et la manière compte. Et la manière est essentielle.
Absolument.
Et la manière va.
C'est celle qui fait son succès.
Absolument.
En plus.
Ah oui, en plus, voilà, la manière compte. Donc, et la manière aussi est. C'est ça aussi qui, si vous voulez, qui nourrit une partie du populisme aussi.
Voilà, restons-en là parce qu'on s'est fait suffisamment d'ennemis pour la fin de l'émission. Merci beaucoup Paul Lassen, c'est sympa. Et côté Chiappa et côté Lucet, ça plaira pas, mais c'est comme ça. Et on termine en chanson avec une chanson de 1966 que vous connaissez très bien, messieurs. Jacques Dutronc, et moi, et moi, et moi.
Cent millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs. Et moi, et moi, et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques. Et moi, et moi, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèves la faim, et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi.
Merci à Jacques Dutronc, merci à Cyril Pascal qui a réalisé l'émission, merci à Paul Lassen qui l'a préparé. À nos invités Alain Frachon et François Godemont qui nous ont rendu plus intelligents sans vous ennuyer, en tout cas moi. Faites écouter l'émission en podcast sur Europe 1.fr, elle est super et nous on se retrouve samedi prochain.